Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être encore à l'écoute de Métropolez-vous. Mercredi ont commencé les rencontres Ville et Handicap qui se tiennent à Toulouse jusqu'au 2 décembre. Une manifestation qui met en lumière les actions de la ville de Toulouse, mais aussi celles des entreprises, des professionnels, des communes et des associations pour l'intégration des personnes en situation de handicap dans les divers domaines de la vie sociale, culturelle ou dans celui des loisirs. Cette année, d'autres villes de la métropole, Bruguière, Castelginestes, Colomiers, L'Union, Quinfonce-Gris, Fenouillet, Saint-Orens et Tournefeuille s'associent à événement, l'occasion pour Métropolez-vous de faire un point sur la situation des personnes handicapées dans la métropole et notamment, ce sera notre sujet du jour, sur celle des handicapés visuels et je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. Nous allons donc consacrer tout ce numéro aux actions menées en faveur des handicapés visuels dans la métropole toulousaine. À Toulouse, comme dans beaucoup d'autres métropoles, il y a un certain nombre d'associations qui œuvrent en faveur des personnes handicapées visuelles, plusieurs d'entre elles étant bien sûr impliquées dans les rencontres ville et handicap. Parmi celles-ci, il y a le CETEB, le Centre de Transcription et d'Édition en Braille. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui sa directrice Adeline Coursan et sa rédactrice Laetitia Degrenier, que je salue et remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, le nom de votre association Centre de Transcription et d'Édition en Braille donne déjà une idée de votre activité et de la population à laquelle elle s'adresse. Mais je vais vous demander tout de suite de préciser un peu tout ça. Depuis quand existe cette association? Quels services et prestations propose-t-elle et à qui?
Oui, alors le Centre de Transcription et d'Édition en Braille a vu le jour en 1989. C'est en fait Monique Truquet, qui était une chercheuse à l'université Paul Sabatier, qui a travaillé sur la création du premier logiciel de transcription. Et beaucoup de personnes se sont intéressées à ces travaux, à la suite de quoi certaines demandes de travaux de transcription lui ont été demandées, notamment par le domaine privé, les banques qui souhaitaient des relevés bancaires pour leurs clients aveugles. Et donc Monique Truquet a vu de plus en plus ces demandes arriver et s'est dit « bon, il faut externaliser un petit peu ces travaux » et elle a décidé de créer l'association. Monique Truquet est d'ailleurs toujours secrétaire générale de l'association aujourd'hui.
Alors quels services et prestations vous proposez ?
Nous avons plusieurs domaines d'activité dans la transcription. D'une part, nous faisons des livres en braille. Donc, nous avons une large librairie en braille qui permet aux personnes déficientes visuelles de commander ces livres soit en ligne, soit par téléphone ou sur le catalogue. Aujourd'hui, ça représente à peu près 1300 ouvrages que nous avons à leur disposition. Les bibliothèques et les médiathèques, d'ailleurs, s'adressent à nous pour remplir leurs rayons. Le deuxième domaine d'activité, c'est donc le service de transcription des relevés bancaires. Donc nous travaillons pour, je dirais, 95% des banques en France. Et cela représente à peu près 7000 aveugles en France qui bénéficient de leurs relevés bancaires tous les mois. Et le troisième secteur d'activité du CETEB, c'est la transcription des magazines et des journaux, institutionnels notamment. Donc nous transcrivons par exemple le magazine à Toulouse, celui du conseil départemental ou encore de la région, mais également pour plusieurs villes, départements et régions de France.
Et donc ça s'adresse à un public évidemment non-voyant, et ça c'est le braille, mais aussi toutes les catégories de déficients visuels. Et là, il ne s'agit plus de braille, c'est quoi? Ce sont des gros caractères?
Oui, effectivement, on travaille également pour les personnes malvoyantes. Et les personnes malvoyantes, on va donc essayer d'adapter des documents de manière à ce qu'elles puissent les lire. Hein. Donc, c'est essentiellement de la police de caractère agrandie avec un certain code. Ou également, on va jouer sur des différences de couleurs qu'elles peuvent percevoir plus d'une manière ou d'une autre. Mais je dirais que ça ne représente pas la majorité de notre travail tout de même.
Merci pour cette présentation du Centre de Transcription et d'Édition en Braille de ses activités et services. Nous allons y revenir dans quelques minutes. Pour l'instant, il est l'heure de retrouver Corinne Saint-Félix pour son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. « Elles sont à l'origine du sujet de cette émission. Nous commençons ce flash avec les 8e rencontres Ville Handicap qui ont débuté dans la Ville Rose.
Oui, avec une thématique cette année, Ensemble, écrivons notre histoire. Objectif durant ce mois, sensibiliser et mobiliser sur la question du handicap. Un événement qui n'est plus seulement toulousain, mais qui s'étend aux communes de l'agglomération. Dans les faits, Toulouse Métropole a constitué des groupes de travail autour de l'accessibilité, voirie, espace public. Le but, améliorer l'accessibilité des cheminements piétons afin de faciliter le déplacement pour tous. La métropole anime un groupe de travail d'ailleurs mensuel Accessibilité Voirie Espace Public composé de représentants d'associations de personnes handicapées, de personnes âgées, d'usagers, de représentants du secteur économique et de techniciens de Toulouse Métropole. Dans ces aménagements urbains, des feux et balises sonores sont installés aussi pour aider au déplacement des personnes en situation de handicap visuel. Des télécommandes universelles permettent de déclencher les signaux sonores des figurines piétonnes au carrefour et des balises d'information dans les équipements publics.
Un autre domaine et programme d'action pour Toulouse Métropole, celui de l'éducation.
La métropole accompagne par exemple les professionnels de terrain dans la mise en place de projets intercommunaux autour des thématiques de l'éducation et de la parentalité en soutenant l'organisation d'un forum interactif destiné aux jeunes et à leurs familles. Des conférences, des rencontres, des débats, différentes animations pour enfants sont organisées pour aborder les problèmes que rencontrent certaines familles. Ces événements sont organisés par les communes et les associations d'aide à la fonction parentale. La métropole met à disposition des parents des espaces d'expression, d'écoute, d'échange avec des spécialistes renommés autour de différents thèmes tels que la communication parents-ados, l'autorité parentale ou encore l'organisation de la famille après une séparation. Enfin, Toulouse Métropole s'est engagée aux côtés de la Caisse d'allocation familiale pour proposer aux personnes qui traversent des conflits familiaux de rencontrer un médiateur, un moyen qui permet de restaurer ou de préserver les liens familiaux et de prévenir les conséquences d'une éventuelle dissociation de la famille.
Regardons maintenant de l'autre côté de la Méditerranée. Une déclaration d'intention d'accord cadre de coopération a été signée entre la mairie de Toulouse, Toulouse Métropole et la ville de Tunis fin octobre.
Oui, cette déclaration doit ouvrir une nouvelle page de la coopération au service de l'humanisme et s'inscrire notamment dans le cadre de l'organisation des élections municipales tunisiennes prévues en mars 2018. Sur proposition du ministre tunisien, avec l'accord de Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, un comité mixte de réflexion sera créé pour aborder les grands sujets liés à l'enseignement et à la recherche en marge de la création de la grande université franco-tunisienne.
Alors Adeline Coursan, Laetitia de Grenier, je vais vous demander bien sûr de réagir à la première information de ce flash, celle qui concerne les rencontres Ville et Handicap. De quelle façon votre association est-elle impliquée, associée à cette édition 2017 ?
Eh bien, pour ces 8e rencontres, on a choisi de créer un événement, d'organiser un événement qui va rapprocher les personnes voyantes des personnes non-voyantes. Et on s'est dit qu'on aimerait présenter un film en audiodescription pour faire découvrir au public voyant ce que c'est en fait l'audiodescription. On voit souvent cette mention à la présentation d'un film à la télé, hein, la disponibilité en audiodescription, mais en réalité, les personnes voyantes ne savent pas trop ce en quoi ça consiste. Alors, l'audiodescription, en fait, vient ajouter des informations au film, c'est-à-dire au dialogue et au bruit du film. Des informations qui sont d'ordre visuel et donc que la personne aveugle ne peut pas connaître. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand une personne aveugle veut disposer de l'audiodescription ? Elle met un casque et elle écoute des compléments d'informations sur la scène, sur où ça se situe, ou des gestes que font les acteurs pendant le film et qui ont un sens. Et en fait, voilà, nous on avait l'idée de pouvoir proposer un film en audiodescription pour tous, c'est-à-dire que le film qui va avoir lieu donc pour cet événement va proposer l'audiodescription non plus en passant par un casque, mais toute personne va pouvoir entendre ce qui est dit durant l'audiodescription. Donc ce serait intéressant aussi pour les personnes voyantes de pouvoir éventuellement fermer les yeux durant le film et se laisser guider par tout ce qu'elles vont entendre et voir quel rendu d'informations elles peuvent avoir et quelle perception du film elles vont avoir. Alors ce film, il est un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est deux personnes, une personne voyante et une personne non-voyante, qui vont faire un parcours au Maroc et qui vont donc croiser leur regard sur non seulement le lieu qu'elles traversent, mais aussi beaucoup de notions de vie quotidienne d'une personne aveugle et d'une personne voyante. De là, c'est très intéressant pour toutes les questions qu'on peut se poser au sujet du quotidien d'une personne non-voyante. Et l'acteur principal du film, qui est Monsieur Jean-Pierre Brouillon, sera également présent pour cette diffusion du film. Et il échangera à la fin.
Qui lui est voyant ou non-voyant ?
Alors, il est non-voyant, Jean-Pierre Brouillon. Hein. C'est un globe-trotteur assez incroyable. Voilà, c'est un personnage. Et donc, il se fait une joie d'échanger à la fin du film avec les personnes qui seront présentes dans la salle.
Bien, merci pour toutes ces précisions qui nous donnent l'occasion de prolonger notre échange et de creuser maintenant un peu plus le sujet du jour, consacré, je le rappelle, aux actions menées en faveur des handicapés visuels dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, la suite avec nos invités Adeline Courson et Laetitia Degrenier, directrice et rédactrice du Centre de transcription et d'édition en braille. Avant de parler de la situation des personnes handicapées visuelles dans la métropole toulousaine et des actions qui sont menées en leur faveur, je voudrais qu'on donne quelques précisions et même quelques chiffres pour se faire une idée de leur situation sur l'ensemble du territoire français, voire à l'échelle de notre région. Déjà, selon quels critères définit-on le handicap visuel ? Qu'est-ce que c'est un handicapé visuel ?
Alors, il y a plusieurs sortes d'handicapés visuels. Hein. D'abord, on va parler des aveugles, tout simplement d'une personne qui ne voit pas. Je vous donne la définition qui est précise. Les personnes qui sont considérées comme aveugles sont les personnes dont l'acuité visuelle du meilleur œil après correction est inférieure à 1/20 de la normale. Voilà. Ensuite, on a plusieurs catégories de déficients visuels. Donc, on les appelle aussi les malvoyants. On a les malvoyants profonds, qui ont donc une vision résiduelle limitée à la distinction des silhouettes. En France, ils sont à peu près 146 000. Hein. On a les malvoyants moyens. C'est l'incapacité à reconnaître un visage à 4 mètres, l'incapacité à lire et à écrire. Eux, ils sont 932 000. Et les malvoyants légers. Là, ce sont des difficultés à reconnaître un visage à 4 mètres et des difficultés à lire et à écrire. Ils sont 560 000, sachant que ce sont des chiffres, ce sont les derniers chiffres que nous avons, ils datent de 2000
ça remonte à loin quand même.
Ouais. Voilà, c'est une enquête réalisée par l'INSEE. Il est très difficile d'avoir des chiffres concernant les personnes malvoyantes, déficientes visuelles et les personnes aveugles, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'organisme qui fait un recensement de ces personnes en particulier.
Alors aujourd'hui en France, il y a une population qui est, je crois, de 66-67 millions. En gros, ça serait une personne sur combien ? On va tout comprendre, non-voyants, malvoyants, déficients visuels, quelles que soient les catégories.
Alors, au niveau du nombre de malvoyants, c'est 17 personnes sur 1000, en nombre de malvoyants, tout confondu. C'est plus d'un million de personnes qui sont malvoyantes. Après, au niveau du nombre d'aveugles, on est plutôt sur 61 000, donc c'est des personnes qui ne voient pas du tout.
En apathie, je suppose, pour la métropole toulousaine.
Alors, c'est difficile aussi, pour la métropole de donner des chiffres. Maintenant, on peut s'aiguiller par rapport au nombre de magazines que nous distribuons sur la métropole ou sur le Conseil général. Donc, sur la métropole, par exemple, on envoie Toulouse Métropole, le journal d'information de la métropole, à 96 personnes. Et on envoie le journal du Conseil Général à 105 personnes. Sachant que le dernier journal de la région Occitanie, donc la nouvelle région, nous l'avons envoyé à 329 personnes. Donc sur la région anciennement Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Alors qu'il doit y en avoir beaucoup plus qui sont concernés. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui seraient concernées n'ont pas accès forcément à ces publications ou ne les réclament pas.
Voilà, c'est ça. C'est que, en fait, la plupart sont pas forcément au courant que ça existe, donc ne font pas forcément la demande auprès des collectivités, ou alors sont des personnes qui sont plus âgées ou qui sont isolées, qui n'ont pas forcément les moyens de s'informer, ou alors tout simplement des personnes qui ne sont pas braillistes, donc des aveugles qui ne lisent pas le braille et qui, du coup, donc suite à des accidents de la vie, vous devenez aveugle ou malvoyant, vous ne pouvez pas avoir le temps d'apprendre, vous n'avez pas appris le braille, et donc du coup, vous ne pouvez pas lire. Les magazines que nous transcrivons.
C'est très long l'apprentissage du braille ?
Oui, alors très long, c'est relatif, ça dépend des motivations.
Ben oui. Hein ?
Bon, quand c'est appris dès le plus jeune âge, de toute manière, c'est un petit peu ce qui est le plus courant. On va dire que l'apprentissage va durer 1 à 2 années pour vraiment le lire de
le
manière...
maîtriser.
Voilà. Après, je dirais une personne, un jeune adolescent, s'il est très motivé, peut l'apprendre en 6 mois. Tout ça, surtout pour une raison de sensibilité du doigt. Il est sûr qu'une personne voyante, par exemple Laetitia ou moi, on va apprendre le braille en même pas, je dirais, quelques heures. Parce que nous le lisons avec les yeux.
Les yeux.
Voilà. Donc, c'est là toute la différence.
Alors, on va parler maintenant de votre association, donc des services et prestations que vous avez déjà évoqués tout à l'heure, et de tous les types de publications que vous imprimez. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas le bon terme. On ne doit pas dire imprimer. C'est quoi le bon terme lorsqu'il s'agit de faire des lettres en relief, de faire du braille?
On appelle ça l'embossage. C'est parce que embosser, c'est le terme en braille pour imprimer, parce que quand vous imprimez des caractères braille, donc il faut s'imaginer sous forme de petites bosses en relief sur une page de papier plus épaisse que le papier normal, en fait vous faites tout simplement des bosses, voilà, donc ça s'appelle l'embossage.
Tout ça est tout à fait logique effectivement, alors ne m'en veuillez pas si je reprends le terme imprimé de temps à autre. Vous vous adressez donc, vos clients principaux c'est les collectivités dans le secteur public et certaines institutions sans doute, dans le secteur privé beaucoup le secteur bancaire, et puis pour les particuliers ça va être quoi? Ça va être des livres tout simplement, des romans, des essais?
Oui,
des...
alors pour les particuliers, bah c'est la bibliothèque, hein, tout oui. à fait. Ils commandent comme nous, on commanderait sur Amazon ou la Fnac pour avoir un bouquin. Donc, ils sont essentiellement intéressés par les ouvrages littéraires. Mais les particuliers peuvent aussi nous envoyer des demandes différentes. Par exemple, ils ont besoin d'une notice par rapport à un équipement électroménager qu'ils ont acheté. On va leur transcrire en braille. Ils ont besoin d'envoyer un courrier à quelqu'un qui est également brailliste, on va leur transcrire ce courrier. Donc on a des demandes particulières vraiment très diverses et variées. Et
votre zone de diffusion, de livraison plutôt, c'est quoi? C'est la France entière? C'est au-delà? C'est les pays francophones?
Alors oui, on travaille pour la France entière. D'une part, toutes les médiathèques, les bibliothèques de France qui sont rendues accessibles aujourd'hui nous commandent des bouquins. Également, par le biais de la transcription des relevés bancaires, on travaille pour toutes les banques. Donc, tous les clients des banques en France et Métropole reçoivent donc nos transcriptions. Mais on va également travailler pour de nombreux pays francophones comme le Canada, la Belgique, la Suisse. Également, certains pays d'Afrique qui nous commandent en particulier des bouquins.
Oui, parce que vous êtes un des trois plus gros centres de France pour cette activité d'embossage, je reprends le terme.
Oui, effectivement, on est vraiment pas nombreux en France à faire ce travail. Je dirais que, grosso modo, il y a trois grosses imprimeries en France. La nôtre est assez particulière parce que nous vendons nos produits, nos prestations. Les autres associations qui produisent du braille fonctionnent plutôt sous forme de prêts, hein, des livres, un petit peu comme une médiathèque. Bah, c'est des médiathèques particulières, mais on va aussi travailler sur d'autres domaines d'activité. Je pense notamment à Handicap Zéro, une association sur Paris, qui travaille beaucoup dans la transcription de tout ce qui va relever du domaine sportif, par exemple, et également en lien avec beaucoup d'industriels qui veulent produire des notices d'information en braille, également des médicaments, hein. Il faut bien transcrire
les notices.
Voilà, les notices. Puis je vous le dis, la dernière grosse association, AVH, voire GI2A à Toulon, eux vont plutôt produire des documents qui sont destinés aux prêts.
Quelles sont les structures qui vous sollicitent? Bon, il y a les banques, il y a les collectivités territoriales, certaines institutions publiques, et il y a aussi des maisons d'édition qui vous sollicitent directement?
Très rarement les maisons d'édition, parce que en fait, nous, lorsqu'on va transcrire un livre, on ne s'adresse pas à la maison d'édition. Nous bénéficions de ce qu'on appelle un droit exception handicap, qui est donc délivré par le ministère de la Culture, et qui dit quoi? Qui dit que toutes les associations qui ont vocation à servir les personnes déficientes visuelles peuvent bénéficier des fichiers d'auteurs, donc de livres, via la BNFA, qui est la Bibliothèque Nationale de France. Donc lorsque nous choisissons de transcrire un dernier livre qui est sorti, nous nous adressons directement à la BNFA pour avoir ce fichier et le transcrire. De sorte que la maison d'édition n'est absolument pas au courant que le livre va être transcrit en braille, et l'auteur, bien sûr, du livre ne l'est pas non plus. Alors c'est un petit peu dommage, on peut se dire, ça pourrait être aussi une fierté pour une maison d'édition de dire que son livre est accessible à tout le monde. Et je dois dire que récemment, on a été surpris, notamment par la maison d'édition Flammarion, et de l'auteur, l'écrivain Jean-Gabriel Cosse, qui nous a confié son livre en avant-première, c'est-à-dire avant même de le sortir en librairie. Ça vient aussi du fait que une des héroïnes de son livre était aveugle, et il a souhaité donc que les personnes aveugles puissent bénéficier de son livre avant tout le monde.
Je me demandais si une personne qui est non-voyante ou malvoyante, qui cherche un livre, roman-essai, ou qui est étudiante et qui cherche un livre dans le cadre de sa scolarité, ça se trouve facilement, ou au contraire, ça peut être souvent très compliqué.
Bien souvent, c'est un parcours du combattant. parce que on est obligé, nous, par exemple, association, de faire des choix dans les transcriptions que l'on fait, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens financiers de pouvoir transcrire plus d'ouvrages. Aujourd'hui, par exemple, on fait 80 ouvrages, 80 nouveautés par an. Et ça, c'est assez dommageable pour les personnes non-voyantes parce que ça veut dire qu'on leur impose nos propres choix, quelque part. Mais s'ils ont envie de lire un autre livre qui ne fait pas partie de notre sélection, et bien, ils ne vont pas le trouver, bien souvent. Et il en est de même, bien sûr, pour tous les étudiants non-voyants qui ont besoin de faire des recherches dans des domaines particuliers et qui vont avoir vraiment beaucoup de mal à trouver des associations qui vont vouloir transcrire tout simplement les outils dont ils ont besoin pour travailler, évoluer dans leur parcours scolaire ou professionnel.
En fait, il faut savoir que transcrire un livre, c'est difficile pour nous aussi. C'est-à-dire que pourquoi on fait un choix ? C'est parce qu'en fait, transcrire un livre, c'est cher. Un livre que vous allez acheter dans une librairie, n'importe laquelle, ça va vous coûter entre 20 et 25 euros maintenant. Nous, c'est 500 euros le coût de production d'un livre. Donc en fait, pour le vendre à des prix aux particuliers qui ne soient pas rédhibitoires, pour que les gens puissent aussi acheter des livres, on est obligé de faire un pari. De dire, bon ben voilà, ça va nous coûter 500 euros entre le moment où on le prépare, le moment où on le transcrit, le moment où on l'embosse, et le moment où on l'envoie. Donc, on dit que ce livre-là, on va le vendre 10 fois, minimum 10 fois. Donc, on est obligé de faire des choix sur le...
Ce sont des choix qui sont presque des paris ?
Oui, bien souvent, mais bon, les choix ne sont pas aléatoires non plus. Hein. On a un comité de lecture en interne qui étudie les rentrées littéraires, les prix concours, aussi ce qu'apprécient particulièrement nos fidèles clients. Et donc, une liste de livres à transcrire est définie par ce comité de lecture.
Alors, je suppose que vous avez des relations privilégiées avec certaines associations qui œuvrent dans le domaine du handicap visuel dans la métropole toulousaine et peut-être même au-delà. Également avec les communes de la métropole, les élus qui ont dans leur délégation le handicap. Comment ça fonctionne tout ça ? Alors, je pense à la métropole, mais ça peut être aussi le conseil départemental ou la région Occitanie.
Oui, tout à fait. On a des relations particulières, notamment avec les élus en charge du handicap, hein, qui bien souvent dans leurs projets font appel à nous pour...
Vous êtes consulté régulièrement
Oui, on est consulté assez régulièrement, notamment pour tout ce qui va toucher la déficience visuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution technique permettant, par exemple, l'accessibilité d'établissements recevant du public ou de dispositions particulières visant à informer les personnes déficientes visuelles. Voilà. On essaye d'accompagner au mieux à la fois leurs réflexions, leurs projets, mais on peut être aussi initiateur de projets, de choses à mettre en place.
Outre les rencontres Ville et Handicap, est-ce qu'il y a d'autres événements dédiés au handicap, peut-être plus spécifiquement au handicap visuel, je ne sais pas, dans la métropole toulousaine ?
Oui, alors d'autres associations font pas mal d'événements. Hein. Je pense notamment aux chiens guides, je pense également à la canne blanche électronique. Alors parfois on vend des pommes pour ramasser un petit peu d'argent. Parfois, on organise d'autres événements, des portes ouvertes, etc. Mais je dirais que pour nous, il y a aussi un événement marquant auquel on participe depuis 2 ans. Ce sont les journées handicitoyennes. Les journées handicitoyennes s'intitulent également « Différents comme tout le monde ». C'est en fait un événement qui s'adresse essentiellement aux élèves de 5e à travers tout le rectorat. Et cette journée qui est organisée, en fait, même sur une semaine, vise à sensibiliser les élèves de 5e au handicap. Voilà, donc nous sommes toujours ravis de pouvoir proposer quelque chose, et notamment notre animation, c'est découvert du braille, et c'est assez surprenant comment des jeunes élèves arrivent à lire le braille très très rapidement, je dirais même en 10 minutes, hein, si on leur explique. Et pour nous, c'est assez important de faire ces démarches auprès d'eux, parce que d'une part, ces journées permettent de rencontrer énormément d'élèves. Sur la semaine, c'est 800 élèves de 5e hein, qui côtoient donc les différentes associations représentant les handicaps. Et voilà, c'est une des bonnes actions que nous faisons à l'association.
Pour terminer, je vais vous poser une question à laquelle vous allez me répondre forcément oui. Elle concerne la situation des handicapés visuels en France. Est-ce qu'il reste beaucoup à faire ? Je suppose que oui, mais selon vous, quelles seraient les priorités ?
Alors, les priorités, je dirais le premier axe, ce serait de pouvoir vraiment progresser dans le domaine de la locomotion et dans l'aide au déplacement, surtout pour une personne déficiente visuelle, qu'elle puisse se rendre librement à des rendez-vous, dans des lieux, dans des commerces, en toute autonomie ou tout du moins avec le plus d'autonomie possible. Donc ça nécessite beaucoup de moyens encore à mettre en place, tant au niveau des transports, mais aussi au niveau des aménagements du bâti, de la signalétique. Et tout ça est un petit peu long à se mettre en place. Hein. Si on s'en réfère à la loi de 2005, On voit quand même qu'il y a 15 ou 16 ans qui sont passés.
On se hâte lentement, comme on dit.
Voilà, tout à fait. Et je dirais le deuxième axe où vraiment il y a des progrès à faire, c'est donc le domaine de la culture. Et là, ça nous concerne directement puisque, comme on l'a expliqué tout à l'heure, très peu d'ouvrages sont disponibles en braille pour les personnes non-voyantes. Et on souhaiterait bien évidemment qu'elles puissent avoir accès à autant de choses qu'une personne voyante.
Cela dit, on voit dans certains lieux à Toulouse, le TNT ou le Théâtre du Capitole, par exemple, qu'il y a des programmes qui sont proposés aux personnes malvoyantes ou non-voyantes lorsqu'il y a un opéra ou une pièce de théâtre.
Oui, tous les ans, avec le Théâtre du Capitole, le Théâtre Orchestre Ballet du Capitole, du coup, et le TNT, par exemple, on a un partenariat et on transcrit leur programme pour les personnes non-voyantes.
Alors, je crois qu'il y a quelque chose d'ailleurs au Théâtre du Capitole pendant les rencontres Ville et Handicap. Il m'a semblé qu'il y avait une journée qui était proposée.
Oui,
bon, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler du handicap visuel et de tout ce que fait le Centre de Transcription et Édition en Braille, ainsi que de ce qui se fait et qui reste à faire pour les personnes handicapées visuelles dans notre pays. Les rencontres Ville et Handicap ont lieu dans la métropole toulousaine jusqu'au 2 décembre. Elles sont l'occasion pour chacun d'entre nous, qu'on soit concerné de près ou de loin par la question, d'en savoir plus sur la situation des handicapés dans la métropole et sur les actions que mènent pour les collectivités, les entreprises, les associations dans tous les domaines du champ social et culturel ou dans celui des loisirs. J'ai découvert pour ma part qu'il y avait beaucoup d'initiatives à connaître et à soutenir. Pour consulter le programme de ces rencontres, vous pouvez vous connecter au site de la mairie de Toulouse, www.toulouse.fr, à la catégorie sociale, handicap et accessibilité. Et puis je vous invite bien sûr à consulter le site du Centre de Transcription et d'Édition en Braille pour avoir le détail de tous leurs services et prestations, www.cteb.fr. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.